écoutez France Culture, il est 8h. Le journal avec Antoine Denecher, bonjour à vous.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. L'Allemagne touchée par un nouvel attentat hier en fin de soirée. Un homme a fait exploser une bombe à l'entrée du festival de musique Danzbar en Bavière. Il est mort, 12 personnes sont blessées. Il s'agit d'un demandeur d'asile syrien souffrant de troubles psychiatriques, indiquent les autorités.
Bernie Sanders va adouber officiellement Hillary Clinton. Ce soir, le sénateur du Vermont s'exprime à la tribune de la convention démocrate qui s'ouvre à Philadelphie. Mais ses supporters ont du mal à avaler ce ralliement de l'ex-First Lady, nous dira Frédéric Carbone également dans ce journal.
Le CIO décide de ne rien décider finalement. Le comité international olympique laisse aux fédérations de chaque sport le soin d'exclure ou pas les Russes avant les JO de Rio, et ce malgré les graves accusations de dopage d'État à Moscou ce matin. On ne cache pas sa satisfaction, nous dira Caroline Larson.
Polémique suite et peut-être pas fin après l'attentat de Nice. Cette fois, c'est une policière municipale qui accuse la place Beauvau de pression pour falsifier son rapport sur le dispositif de sécurité le soir du 14 juillet. Bernard Cazeneuve se dit indigné par de basses manœuvres politique.
Et puis le moral des chefs d'entreprise s'améliore au mois de juillet en France, selon l'INSEE. Alors est-ce à dire que cette fois, oui, ça va vraiment mieux? Nous avons posé la question à l'économiste Mathieu Plane. L'Allemagne a de nouveau été touchée par un attentat, pour reprendre les termes utilisés cette nuit par les autorités de Bavière lors d'une conférence de presse. Cette fois, Pascal Thibault, un réfugié syrien, s'est fait exploser à l'entrée d'un festival de musique à Ansbach, près de Nuremberg.
C'est un peu après 22h qu'une explosion a retenti à l'entrée d'un festival de musique en plein air à Ansbach. L'auteur de l'attentat ne disposait pas de billets, ce qui a pu réduire le bilan. Les 2000 personnes qui devaient assister au concert de dimanche soir ont été ensuite évacuées. L'auteur de l'attaque, un jeune Syrien de 27 ans, arrivé en Allemagne comme réfugié il y a 2 ans, a été tué sur place, victime de son engin explosif. 12 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement. Le réfugié était hébergé dans un foyer à Ansbach même. Sa demande d'asile avait été rejetée l'an dernier, mais il bénéficiait d'un titre de séjour. Le jeune homme avait tenté à 2 reprises dans le passé de se suicider et avait été pour cette raison pris en charge dans une clinique psychiatrique. Le ministre de l'Intérieur bavarois, qui a tenu une conférence de presse sur place dans la nuit, a parlé d'un attentat et n'exclut pas une piste islamiste. Les autorités estiment que le réfugié ne voulait pas seulement se suicider, mais a voulu par son geste sciemment tuer d'autres personnes. Cette explosion intervient dans un lourd climat en Allemagne qui a frappé 3 fois en une semaine la Bavière. Lundi dernier, un jeune réfugié se réclamant de l'organisation État islamique avait blessé plusieurs personnes dans un train. Et vendredi soir, un jeune homme de 18 ans souffrant de troubles psychiatriques a tué 9 personnes à Munich avant de se suicider.
Pascal Thibault de RFI pour France Culture. Ajoutons qu'hier encore, un demandeur d'asile syrien a tué une femme et blessé 2 personnes dans le centre-ville de Reutlingen, dans le sud-ouest de l'Allemagne. L'attaque s'est faite à la machette. La police affirme ne disposer d'aucun élément indiquant qu'il s'agisse d'un attentat terroriste, parlant plutôt, je cite, d'un crime passionnel concernant cette fois la fusillade de Munich vendredi. La police allemande a annoncé avoir interpellé hier soir un adolescent afghan de 16 ans, ami de l'auteur de la tuerie. Il est soupçonné de non-dénonciation de crime. La place Taksim était noire de monde hier soir à Istanbul pour un grand rassemblement pour la démocratie et contre le putsch raté du 15 juillet dernier. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les partisans du président Erdogan qui étaient dans la rue, mais ceux du CHP, parti de gauche de tendance kémaliste. Une démonstration de force qui divise l'opposition, dont une partie craint de favoriser Erdogan en contribuant par cette manifestation au grand mouvement d'unité nationale en faveur du président turc Alexandre Liet.
Une mer de drapeaux rouges et le portrait de Mustafa Kemal Atatürk dans les rues d'Istanbul dimanche soir. Plus de 100 000 personnes se sont rassemblées à l'appel du CHP, le premier rassemblement de l'opposition sur cette place depuis les grandes manifestations de Gezi en 2013. Les manifestants qui ont respecté la consigne, que des drapeaux turcs, que des portraits d'Atatürk, pas de symboles partisans. Et un message d'unité nationale comme l'explique ce vieux militant du CHP.
Ce n'est pas seulement pour le putsch du 15 juillet, c'est pour condamner tous les putschs, qu'ils soient civils ou militaires. Et c'est pour la démocratie que nous sommes venus ici. Le rassemblement de ce soir a été soutenu par l'AKP aussi. Il a été rendu possible grâce aux autorités municipales de l'AKP. Et en tant que militants du CHP, nous les remercions.
L'opposition du CHP a réussi son pari, mais à quel prix ? Pour certains, on a offert un boulevard au président Recep Tayyip Erdogan en défilant ainsi pour l'unité nationale. Alors que le pays est traumatisé non seulement par le putsch raté, mais aussi par les purges qui frappent la fonction publique et bien au-delà.
Un reportage signé Alexandre Billette, toujours concernant la Turquie. Amnesty International affirme avoir des preuves crédibles de détenus torturés depuis le putsch raté et la purge menée par le régime. Selon l'ONG, la police d'Ankara et d'Istanbul maintient des détenus dans des positions douloureuses pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 48 heures. L'organisation parle également de privation de nourriture et d'eau, d'injures, de menaces et dans certains cas de coups et de viol. Kaboul a pleuré et enterré ses morts hier, jour de deuil national en Afghanistan, au lendemain de l'attentat suicide qui a fait 80 morts et 230 blessés. L'attentat qui a été revendiqué par l'organisation État islamique. Depuis plusieurs années, les autorités iraniennes font la chasse aux antennes paraboliques accusées de tous les maux. Eh bien, les médias de Téhéran, hier encore, ont rapporté que 100 000 antennes paraboliques et autres matériels de réception de la télévision par satellite ont été détruits.
100 000 paraboles et d'autres équipements détruits à coups de pelle mécanique lors d'une cérémonie officielle. Selon le chef du Basij, la fameuse milice de volontaires islamiques, le général Mohammad Reza Nardi, 1 million d'Iraniens ont remis volontairement ces équipements de réception de télévision satellitaire. Pour le général Nardi, les télévisions satellitaires développent la corruption. Elles ont pour effet l'augmentation du nombre de divorces, le développement de la drogue et de l'insécurité. La loi iranienne interdit pourtant les télévisions satellitaires. Mais selon le ministre de la Culture, 70% des 80 millions d'Iraniens regardent ces chaînes satellitaires. Il existe actuellement plusieurs dizaines de télévisions satellitaires en persan qui émettent des programmes à destination de l'Iran depuis l'étranger. Certaines sont des chaînes d'information ou politique, d'autres des chaînes de divertissement et les dernières des chaînes qui diffusent des films ou encore des séries télévisées en persan. Alors que le président modéré Hassan Rouhani réclame un assouplissement de la loi, les conservateurs dénoncent régulièrement ces chaînes satellitaires en affirmant qu'elles visent à changer la culture et à affaiblir les valeurs islamiques.
Siavosh Ghazi à Téhéran pour France Culture.
8h07 sur France Culture, la suite du journal d'Antoine Denecher. Après Donald Trump la semaine dernière à Cleveland, c'est au tour d'Hillary Clinton d'être officiellement investie par les délégués de son parti cette semaine.
Oui, la convention démocrate s'ouvre à Philadelphie, mais la vedette de la journée ne sera pas encore l'ex-secrétaire d'État de Barack Obama, mais ce sera Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, va prendre la parole ce soir. Désormais, il soutient Hillary Clinton, mais tous ses partisans n'ont pas désarmé Frédéric Carbone.
Le ralliement de Bernie Sanders a été tardif, mais le rival acharné des primaires salue désormais le programme démocrate le plus progressiste depuis des décennies. Sur la santé et l'éducation, Hillary Clinton s'est rapprochée de ses positions et il a obtenu le départ d'une dirigeante du parti considérée comme trop partiale. Certains de ses partisans n'ont toutefois toujours pas digéré le processus des primaires. Voici Mary Yoon, déléguée venue de Californie.
C'est un simple couronnement. À mon avis, on lui a promis il y a 8 ans quand le président Obama a gagné et le parti s'est engagé à ce qu'elle gagne la prochaine fois. Et ils ont tout fait pour qu'Hillary Clinton sorte vainqueur de ses primaires. Moi, je ne veux pas d'elle. Elle est dangereuse.
Ces délégués manifesteront leur désaccord lors de cette convention. Revendications économiques sur le salaire minimum et la toute-puissance de la finance. Revendications politiques sur le fonctionnement du parti. Le combat, disent-ils, n'est pas terminé. Les plus progressistes s'inquiètent notamment du choix du vice-président. Tim Kaine a été, par exemple, un des soutiens les plus enthousiastes au traité commercial si contesté avec les pays asiatiques. Ce n'est pas le meilleur profil, commente simplement Bernie Sanders.
Merci Frédéric Carbone. Et l'autre discours attendu lors de cette première journée de la Convention démocrate, ce sera celui de Michelle Obama. C'est officiel depuis hier, après la publication du rapport McLaren sur le dopage d'État en Russie. Et malgré la demande de l'Agence mondiale antidopage de disqualifier tous les sportifs russes pour les Jeux olympiques de Rio, le CIO a décidé de renvoyer la balle aux fédérations de chaque sport, à elle de décider au cas par cas, d'où le soulagement à Moscou, Caroline Larson.
À Moscou, les médias et les sportifs se réjouissent, les officiels, eux, se montrent plus prudents, car si une partie des sportifs russes peuvent encore prétendre concourir à Rio, les candidats russes aux épreuves d'athlétisme sont d'ores et déjà exclus. Et de mauvaises surprises sont encore possibles lorsque chacune des fédérations internationales devra statuer au cas par cas. La classe politique russe retient tout de même une décision très sage et très juste, selon un commentaire du député russe Yuri Afonin, par ailleurs membre de la commission des sports de la Douma. Ce dernier parle même d'une victoire pour l'ensemble du sport mondial. De son côté, le ministre russe des sports, Vitaly Mutko, jusqu'ici prompt à parler de campagne anti-russe et politique, est cette fois resté très sobre, se disant reconnaissant envers le CIO. Les gestes de bonne volonté du Kremlin de ces derniers jours ont-ils aidé ? Reste que le CIO l'a confirmé, aucun des officiels russes du ministère des Sports ne sera accrédité à Rio.
En France, la polémique enfle 11 jours après l'attentat de Nice qui a fait 84 morts, ou plutôt elle ne désenfle pas à propos du dispositif policier qui était en place le soir du 14 juillet. Hier matin dans le JDD, puis hier soir lors d'une conférence de presse à Nice, une policière municipale, par ailleurs dirigeante du syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la ville de Nice, a accusé le cabinet du ministre de l'Intérieur d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle indique dans son rapport la présence de policiers nationaux sur deux points de la promenade des Anglais le 14 juillet au soir, alors que Sandra Bertin, responsable de la vidéosurveillance, dit ne pas avoir vu ces policiers-là sur ses écrans ce soir-là. Ces accusations ont été vivement démenties par Bernard Cazeneuve, Jean-Philippe Degnaud.
Aucun membre de mon cabinet n'a jamais été en contact avec la policière municipale et je n'ai demandé aucun rapport. Sur le plateau du 20h de France 2 hier soir, Bernard Cazeneuve a tenté ainsi de repousser la polémique. Comme l'avait précisé le directeur de la police nationale dans l'après-midi, un rapport a bel et bien été rédigé par la fonctionnaire municipale. C'est une remontée d'informations classique et traditionnelle, a souligné Jean-Marc Falcon. Mais ce rapport n'a pas vocation à alimenter l'enquête judiciaire en cours, les juges engageant eux-mêmes les investigations qu'ils souhaitent. Avec qui Sandra Bertin a-t-elle donc été en contact au moment de rédiger son rapport ? A-t-elle vraiment subi des pressions ? C'est le mystère pour l'instant. Bernard Cazeneuve lui demande de donner les noms de ceux qui l'ont ainsi harcelée. Elle répond qu'elle s'en expliquera devant la justice. C'est donc la plainte en diffamation qui résoudra peut-être et dans plusieurs mois cette partie de poker menteur que le ministre de l'Intérieur réduit à des mensonges de ceux qui exercent des responsabilités politiques à Nice.
Merci Jean-Philippe Degnaud. Le moral des chefs d'entreprise français remonte en juillet, après un mois de juin morose. Le climat des affaires se redresse en effet, d'après l'INSEE, qui a présenté ses chiffres jeudi dernier. Précisons tout de suite que 90% des sondés ont répondu avant le 14 juillet et l'attentat de Nice. En tout cas, pour l'INSEE, donc, cette étude vient conforter ses prévisions de croissance. Ce serait 1,6% pour l'année 2016. Alors, pour reprendre une célèbre formule, est-ce que ça va mieux ? Thomas Chonnerre a poser la question à Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE.
Il y a une hausse qui vient corriger un mois de juin qui n'était pas bon. Alors le mois de juin a été marqué notamment dans le moral des chefs d'entreprise par les mouvements de grève. Et donc on récupère finalement le niveau qui était plutôt celui du mois de mai, qui montre que finalement l'économie française est dans une phase de reprise. Alors une phase de reprise assez molle, mais qu'on peut quand même considérer comme une phase de reprise. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que le Brexit n'a pas eu d'influence ou n'a pas créé d'inquiétude du côté des chefs d'entreprise. Parce que il n'y a pas d'effet immédiat où c'est très difficile. On voit qu'on est plus dans une question d'ordre politique économique, c'est-à-dire quelle va être l'Europe de demain, comment la construction européenne va pouvoir se remettre de ça. Mais on, du côté des chefs d'entreprise, il n'y a pas le sentiment que finalement leurs carnets de commandes se sont d'un coup dégarnis parce qu'il y a eu un Brexit. Et eux voient plutôt le fait que la baisse passée des prix du pétrole ou que l'euro qui reste relativement compétitif ou des taux très faibles qui permettent de se refinancer ou en tout cas d'investir à des conditions de financement très favorables, ont des effets positifs sur leur activité. Donc ça s'ajoute le fait qu'il y a quand même le CICE, le pacte de responsabilité, le suramortissement fiscal, la prime à l'embauche. Tout ça commence à avoir quand même des effets plutôt positifs sur le moral des chefs d'entreprise. Il est assez logique qu'on ait quand même une légère reprise de l'économie française.
Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Le journal Le Parisien fait des révélations ce matin sur le déraillement du TGV Est lors d'un test le 14 novembre dernier qui avait fait 11 morts. Selon le quotidien, lors d'un essai mené 3 jours avant, le conducteur avait eu de grandes difficultés à respecter les vitesses demandées et selon un enregistrement effectué ce jour-là, l'équipe d'essai ne cachait pas son inquiétude car le TGV roulait bien plus vite que prévu. Par ailleurs, toujours selon Le Parisien, un cheminot présent dans la cabine du TGV accidenté a confié aux gendarmes qu'on lui a demandé d'effectuer les essais à une vitesse supérieure à celle autorisé par le protocole. La SNCF n'a fait aucun commentaire. La météo, le temps sera nuageux sur une grande moitié nord aujourd'hui, ensoleillé voire variable sur le reste du pays. Température cet après-midi plus fraîche vers la Manche avec 19 à 23 degrés. Ailleurs, elles seront estivales de 24 degrés au nord de la Seine jusqu'à 34 degrés près de la Méditerranée.